Allez, 9h41, dernier instant M de la semaine.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'est l'histoire d'un petit compteur électrique qui a suscité de folles réactions. Bruno Denas, vous êtes le médiateur des antennes de Radio France, le sismographe des coups de stress, des coups de gueule et des coups de cœur aussi, hein, il faut le dire, de nos auditeurs. Là, le compteur s'est littéralement emballé de questions et de rumeurs. La faute à Linky, auquel Anne Brunel et Bruno Duvic ont consacré leurs émissions et leurs chroniques. Anne Brunel, les légendes du web, le vendredi dans Secret d'Info. Et Bruno qui prendra la suite comme tous les matins à 10h avec un jour en France. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Sonia.
Dans quelques minutes, Bruno Denas, je vous laisse les clés de l'instant M. Et Anne et Bruno, je vous laisse entre les mains du médiateur. Juste le temps de vous donner les infos médias du jour et d'accueillir Philippe Vandel. Salut Philippe.
Salut Sonia.
Philippe Vandel, avec ou sans accent ?
On verra.
On verra.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Sonia De Villers.
Où Joey Starr fait des excuses à Gilles, là. Voilà, en direct, tout de suite, dans les prochaines minutes ou au début de la nouvelle star. Ou bien, je vous le dis, je ne rendrai pas l'antenne, tout simplement.
Dit et martelé, D8, vous venez d'entendre Cyril Hanouna, au cas vous l'auriez pas reconnu, gagne de l'argent, mais le groupe Canal en perd massivement. 264 millions d'euros en 2015, 400 en 2016. Vincent Bolloré a fait taire d'une main de fer les critiques sur sa gestion. Il aurait hérité d'une situation financière pourrie. Estime Canal Plus en situation de faillite, et situation de faillite, ce sont ses mots. Il n'exclut pas de fermer les chaînes en question. En ligne de mire, évidemment, l'autorité de la concurrence, dont il attend le feu vert pour distribuer beIN Sport dès l'Euro de football. Et au-delà, ce sont tous les salariés, tous les producteurs et tous les animateurs de Canal+ qui sont visés. Ils risquent d'être débranchés, ils n'ont plus qu'à trembler. Voilà, je vous conseille vivement de lire Dans Marianne, ça fait la couve, l'enquête de Mark Endeveld. À un an de la présidentielle, des médias sous influence, des médias qui ne valent plus rien, que les grands patrons avalent comme des bouchées de pain, leur proximité avec les politiques, les projets de mise sous contrôle du FN, et un retour à la période de Jospin qui exerçait une sacrée pression sur France 2. Plus léger, plus joyeux, comme tous les vendredis, on joue dans l'instant M et on gagne. Alors, on gagne cette semaine le coffret de Lina, 4 DVD qui mêlent, c'est très joyeux, et alors vraiment ça fait beaucoup de bien, les femmes mais aussi la mythique, la cultissime Dim Dam Dom. Alors forcément, la voix à reconnaître ce matin ne pouvait être celle que d'une très très grande dame de télévision et de radio. Je vous donne un indice, parce que c'est pas facile. Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions. Dites-vous que Radio France avait une sacrée longueur d'avance.
Je pense qu'une femme, très sincèrement, ne peut pas exercer ses responsabilités avec les mêmes méthodes qu'un homme. Donc, son autorité ne peut pas et ne doit pas s'établir sur des rapports de force.
Difficile, hein ? Philippe Vandel, il sèche.
Je ne sais
Bruno
pas.
Bruno Duvic, il sèche.
Ouais, complètement.
Bruno Denas, vous êtes le phare de la pensée de cette maison, alors faites un effort.
Le phare de la pensée fait l'amour.
Exactement.
Même avec l'indice.
Bon, alors j'espère que vous serez meilleur que toutes ces grandes voix et grandes plumes de Radio France qui sont réunies dans le studio de l'Instant M. Si vous l'avez reconnu, si vous avez son nom, vous m'envoyez un mail très vite. L'Instant M, tout attaché. Chut, Anne Brunel,
oui.
Vous l'avez reconnu.
Je crois, oui.
Je suis très fière de vous. Vous sauvez l'honneur de cette émission. L'instant M at radiofrance.com.
On
Belle
gagne quoi? Un
grille-pain?
Non.
Il n'écoute rien.
Ouais, il n'écoute
on
pas
gagne
le DVD.
Dindam-dum.
Ça va.
Allez, Philippe Vandel, vous avez regardé du sport.
Exactement. Je vais parler sport, ou plutôt, je vais écouter parler sport avec des vrais connaisseurs. Par exemple, Marc Libra sur l'équipe 21.
Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe? Il n'y a plus d'envie, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'amour propre, il ne se passe absolument rien, c'est catastrophique.
Alors je précise que Marc Libra est un ancien footballeur, ancien avant-centre de l'OM. Et puis je suis passé chez nos confrères de RMC, eux ils sont œcuméniques. Il y a également un ancien footballeur, Eric Dimico, et un ancien rugbyman, Vincent Moscato.
J'ai pas regardé le foot là, ça a gagné l'OM ce week-end.
Bah écoute, si
t'es
ça...
Pas, non, t'es pas gentil.
Quoi?
Il faut de la douceur là.
Oh, Rico, non mais s'ils avaient perdu, on en parlerait. Si on en parle pas, c'est qu'ils ont gagné. Hein.
Bien entendu.
Non, c'est pas ça.
Mais c'est probablement pas. Ben on va voir au cours de l'émission. Je sais pas si on va en parler, mais on verra bien.
Rien ne vous frappe? Ils ont tous l'accent, et tous l'accent du Sud. Autrefois, quand j'étais petit, l'accent du Sud, il était chez Pagnol, puis après, ça a été dans les publicités pour la sauce provençale, avec le basilic et la farigoulette, ou alors les pubs pour lessive, ma lessive, elle fleure bon la lavande. Et ça faisait couleur locale, sincérité, plaisir de vivre. Maintenant, c'est dans le sport. Alors, j'explique le dispositif. En gros, il y a le commentateur avec l'accent pointu, ce qui laisse à penser qu'il est neutre, et puis le consultant avec l'accent du Midi, qui transmet implicitement le fait qu'il s'y connaît et que c'est un passionné, tout à fait Thierry. Alors, je vais pas faire ici la liste exhaustive de tous les consultants. On n'aurait pas le temps. Mais ce qui frappe, c'est que dans la vraie vie, une personne sur 10 a un accent du Sud très prononcé. Or, chez les consultants, il y en a 1 sur 10 qui ne l'a pas. Il pourrait y avoir des consultants avec l'accent alsacien, ou l'accent du Nord, ou l'accent savoyard, voyez, qui parle comme ça. Dites donc, ça serait peut-être temps qu'ils se bougent sur le terrain. Eh ben, il n'y en a pas. Les plus forts dans l'exercice, c'est Canal+. C'était dimanche dernier, Monaco OM. Il y a d'abord le commentateur Stéphane Guy.
C'est la 6e ou 7e fois seulement qu'il est titulaire cette saison, Lassine Traoré. Mais il y a une stat qui va intéresser les supporters de l'AS Monaco. Lorsqu'il a joué en Ligue 1 avec l'ASM, il n'a jamais perdu, Lassine Traoré.
Alors, l'accent pointu, mais au bord du terrain, à côté de lui, plutôt, il y a un ancien joueur, Franck Sauzet.
Que de difficultés hein, pour l'OM pour sortir ce ballon. C'est souvent Rekic qui le prend, qui le demande, mais derrière, ça n'enchaîne pas. Et il y a des pertes aussi qui peuvent être très dangereuses.
Et oui, ça n'enchaîne pas. Et c'est pas fini parce qu'on va monter en gamme. Là, on va au bord du terrain. Avec son micro pour interviewer les joueurs et les entraîneurs, il y a Laurent Paganelli.
Ils jouent vite, les Monégas, qu'est-ce que demande leur coach.
Ce que demande leur coach. Et ça va très vite, on le repasse, écoutez.
Ils jouent vite, les Monégas, qu'est-ce que demande leur coach.
Et alors, mardi, j'ai regardé la demi-finale de la Coupe de France. C'était Lorient PSG sur le service public. Et là, j'en suis pas revenu. Écoutez le consultant.
Pour que Lorient, il prend encore. Il prend encore.
Il gagne du temps, hein, les Parisiens.
Ok, les Parisiens gagnent du temps, mais on se dit que le consultant a l'accent bien pointu. Sauf que non, c'est le commentateur qui a l'accent du Sud.
Symbole de cette rencontre, petite qualification possible en finale de la Coupe de France.
Et vous savez ce que je réalise ? J'ai pas de chute. Merci à tous ces accents.
Vous savez ce que je réalise ? Votre accent savoyard, il était pourri. Bruno Duvic, dans Un jour en France, la veille de votre émission sur le compteur Linky, vous aviez consacré une émission sur les accents régionaux comme indice de discrimination en France.
Il y a beaucoup de réactions. Figurez-vous que je suis rentré dans cette maison grâce à une bourse en faisant un reportage sur la discrimination par l'accent. Et à l'époque, j'avais eu Pierre Albaladejo qui m'avait dit que pour le rugby, c'était effectivement très bon d'avoir l'accent.
Très recommandé.
Mais pour parler de l'émission, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est vraiment quelque chose d'intime et de personnel. Souvent, on le traite sous l'angle folklorique. Et en fait, voilà, ça fait partie de votre identité, donc l'accent, c'est sensible. Et on ne peut pas chasser ou empêcher quelqu'un d'avoir l'accent comme ça.
Moi, j'ai lu les commentaires sur votre site et il y a des témoignages assez douloureux.
Absolument.
Des histoires, beaucoup d'histoires de familles déplacées au moment de l'enfance, avec des enfants
qui se sont
collés des sobriquets douloureux à l'école primaire en passant de Marseille à Paris, par exemple. Et c'est des choses qui marquent.
Et dans les médias, des jeunes journalistes du Sud, par exemple, qu'à l'école de journalisme, on oblige à gommer leur accent. Et ça, c'est douloureux, c'est gommer une partie de soi-même, donc c'est très compliqué.
Je pense à Michel Field, qu'on a connu avec un accent du Sud extrêmement prononcé quand il était jeune étudiant en lutte contre le mystère, et maintenant qui parle avec l'accent bien pointu, bien parisien.
Preuve qu'on n'a pas tout à fait le même âge. Alors
c'est dans tous les docs sur mes 68. Dis donc, la dame qui nous sort toutes les semaines un DVD ancien.
Alors, je voudrais féliciter Pierre-Jean. Bravo Pierre-Jean, parce que vous avez reconnu cette voix superbe et cette femme qui a beaucoup compté dans l'histoire de cette maison, Anne Brunel.
Jacqueline Baudrier.
Jacqueline Baudrier, félicitations.
Premier PDG de Radio France en
1975. Exactement, et avant ça, première femme chroniqueuse politique, première femme rédactrice en chef de la deuxième chaîne de télévision. Donc elle a été, 75-81 PDG de Radio France, et après elle a été remplacée par une autre femme qui était Michel Cotta.
Bravo.
L'instant M, M comme média.
Alors déjà, je m'étonne que dans votre émission, on ait le promoteur du programme Linky et une association de consommateurs aux...
C'est ça, parler de Linky sans ERDF, c'est ça que vous auriez voulu.
Extrêmement ambigu.
Bon, donc, à part vous, pas d'interlocuteur légitime. Sur les ondes, qu'est-ce que vous répondez
et
quand on vous dit que c'est peanuts ?
Justement, sur les ondes, vous êtes en train de... Le résultat, votre émission est en train de passer à côté de l'essentiel dans cette affaire.
Voilà, Bruno Denaz, vous êtes le médiateur des antennes de Radio France. Vous avez convié dans l'instant M Anne Brunel et Bruno Duvic. On vient d'entendre Bruno Duvic avec Stéphane Lhomme, conseiller municipal en Gironde, qui était l'un des intervenants par téléphone d'Un jour en France consacré au compteur Linky. Vous le dites, quasiment autant de réactions aussi vives, aussi enflammées que celles sur le conflit israélo-palestinien. Et vous vouliez, pour commencer, interroger Bruno Duvic avec la question de Mélanie.
Exactement, Mélanie, puis d'ailleurs quelques autres militants qu'on peut considérer peut-être un peu aveuglés par leur combat, qui demandent comment, combien avez-vous été payé par ERDF pour faire votre émission et la promo de ce compteur ?
Alors hélas, je n'ai pas été payé, j'ai rien touché du tout. Il y a des critiques parfaitement recevables et il faut faire son examen de conscience quand on reçoit comme ça autant de reproches d'auditeurs. La partie défense sur le thème, vous avez fait la pub de Linky, à mon avis, elle ne
vous
tient pas.
Vous voulez bien nous réexpliquer un tout petit peu ce que c'est Linky pour tous ceux qui auraient raté votre émission.
Linky, compteur intelligent, compteur connecté, compteur électrique, et qui fait remonter un certain nombre de données à ERDF, et ce qui pose la question de l'usage des données personnelles et la question de l'utilisation des ondes et de la propagation des ondes.
Et c'est ça qui angoisse énormément les auditeurs.
Juste une précision, le compteur Linky, il est prévu qu'il remplace de façon massive et progressive, bien sûr, mais de manière quand même obligatoire, les compteurs bleus traditionnels que chacun a chez soi.
D'ici à 2021. Donc, émission pro Linky ou pas, on avait évidemment quelqu'un de RDF, c'est compliqué de faire une émission sur Linky.
Sans évidemment les principaux protagonistes.
On avait quelqu'un du FC Que Choisir, alors qui n'était pas un fou furieux anti-Linky, mais qui avait un vrai discours, certes nuancé, mais disant, au fond, ERDF, vous nous avez jamais prouvé à quoi sert et ce qu'apporte aux consommateurs ce compteur. Le reportage, c'était dans une ville avec des farouches opposants au compteur. Le premier auditeur qu'on a pris, pareil, opposant au compteur. Les questions, elles étaient quand même majoritairement critiques parce qu'il y a des questions qui se posaient. Donc voilà, je les ai posées. Donc le côté vous avez fait la pub de Linky, honnêtement, ça ne tient pas. Après, l'origine de ça, effectivement, c'est l'accrochage qu'on a eu avec Stéphane Lhomme, que j'ai pris à la fin de l'émission, qui est donc élu municipal dans une commune très, très anti- Linky. Et l'origine de l'accrochage, c'est que moi, je peux pas entendre un discours qui consiste à commencer par dire vos invités sont des nazes. Un, parce que c'est pas vrai, et deux, par simple question de correction. Donc voilà, le problème, c'est que le temps est limité dans une émission de radio, et comme, voilà, quand il y a un accrochage comme ça, quand vous avez 4 minutes d'interview prévue et que vous passez 2 minutes sur un accrochage, il en reste plus que 2. Donc Stéphane Lhomme, qui avait certainement des choses intéressantes à dire, n'a pas pu dire tout ce qu'il voulait.
Oui, d'ailleurs, c'est un peu le reproche de Jules qui dit que vous ne l'avez pas laissé parler, donc c'est Stéphane Lhomme, de Mathieu qui dit que vous l'avez coupé en permanence, oui. Sauf qu'en effet, vous aviez posé une question, il n'y répondait pas.
C'est ça, parce qu'il estimait que la question n'était pas bonne. Simplement, voilà, l'une des règles du jeu, c'est que il y a des questions, il y a des réponses. Et ce qui est dommage, c'est que je pense que Stéphane Lhomme avait une chose très intéressante à dire sur ce que ça dit de la démocratie locale, Linky. Et voilà, du manque de communication entre des décisions qui sont prises et des citoyens qui doivent les appliquer. Là, il y a un vrai sujet et il voulait aborder ça, mais du coup, on n'a pas eu le temps parce qu'on a passé 2 minutes à se chicaner.
Alors, pour que tout le monde comprenne bien, il faut savoir aussi que derrière, il y a les réseaux sociaux, qu'il y a le web,
exactement.
Que ce sujet est devenu extrêmement épineux et qu'il y a d'autres relais d'influence que les journalistes, que les médias traditionnels. Je vous propose d'écouter une youtubeuse très, très regardée.
Je veux juste que vous compreniez ce qui se passe et pourquoi je suis dans cet état et pourquoi vous allez être des centaines et des centaines à avoir de plus en plus de problèmes de santé. L'obligation a été votée d'installer pour tout le monde des compteurs Linky. Il y a des gens qui essayent de prévenir que c'est hyper dangereux. Ils le savent depuis le début, ceux qui ont déployé tout ça. On est face à un crime contre l'humanité.
Alors, il faut bien qu'on vous précise que ceci n'est pas un sketch. Ce n'est pas un numéro d'humoriste sur YouTube. Bruno Donas, vous vouliez interroger à ce sujet Anne Brunel.
Exactement, c'est d'ailleurs Anne Brunel qui l'a découverte en quelque sorte sur YouTube. Qui est cette personne d'ailleurs qu'on entend? C'est une grande spécialiste de Linky?
C'est une grande spécialiste de sa promotion personnelle sur YouTube. C'est une jeune femme fort jolie qui anime sur YouTube une chaîne de maquillage. À côté de ça, elle se dit électrosensible. C'est-à-dire que régulièrement, le soir, elle fait sa séance de maquillage devant sa webcam, devant son ordinateur. Peut-être a-t-elle le wifi chez elle, mais à part ça, elle est donc électrosensible. Moi, j'y vois un petit paradoxe. Et puis, comme elle démarre, visiblement, enfin, sa chaîne n'est pas très ancienne, cette vidéo-là a été vue 36 000 fois il y a déjà près d'un mois, quand j'ai fait cette chronique. Donc, depuis, elle a forcément eu d'autres visites. Et elle n'est strictement pas spécialiste de la question. Simplement, comme beaucoup de youtubeurs à la recherche de clics, d'abonnés et donc de revenus, parce qu'il faut savoir que sur YouTube,
alors, un animateur a la recherche du clic et il y a la recherche du revenu. Il y a aussi beaucoup plus grave que ça, il y a aussi le détournement idéologique et la récupération par les complotistes.
J'allais venir, comment est-ce qu'on cherche du public en allant sur des terrains qui sont populaires, donc des sujets qui sont anxiogènes, des sujets qui sont très grand public. Donc on va sur un terrain qui permet de racoler, si je puis dire, comme le font les complotistes, car je pense que cette jeune femme n'est pas une militante complotiste systématique, elle va sur le terrain qui permet de racoler le public complotiste, parce que c'est quelque chose
et
qui permet d'avoir énormément de public.
Et des complotistes, derrière ces réactions sur Linky ?
Mais bien entendu, parce que...
Alors, il y a des gens qui de quelle nature ?
Il y a des gens qui sont, je dirais, imprégnés d'un discours complotiste, c'est-à-dire convaincus qu'il y a quelque part dans la société, au-dessus de ce qu'on appelle le peuple, donc le grand public, un certain nombre de forces maléfiques, dont les médias, disent-ils, mainstream, je dirais, les grands médias grand public, mais aussi les grandes institutions, mais aussi l'élite dirigeante des pays, sont donc l'incarnation de ces pouvoirs maléfiques. Et les personnes qui sont en but à l'institution, les personnes qui craignent les grandes forces commerciales, par exemple, Big Pharma, les grands labos pharmaceutiques, donc tous les gens qui vont être très craintifs vis-à-vis des médicaments, vis-à-vis de l'obligation vaccinale, vis-à-vis de la médecine classique, chimique, vont avoir cette tendance à s'imprégner d'un discours de nature complotiste parce que ça va recouper leurs propres inquiétudes.
Il y en a même finalement se faire peur. On a l'impression que les gens adorent ça.
Mais c'est, les gens adorent que trouver des réponses qui correspondent à ceux par qui les convainc déjà.
Philippe Vandel.
Mais ce qui me frappe, on peut croire que ERDF et EDF soient une hydre tentaculaire, mais de là à parler de crimes contre l'humanité, on est chez les fous. Mais ça n'a plus aucun rapport avec un compteur EDF.
Ça n'a strictement aucun rapport. Bruno Duvic, quelle nature de réaction ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui ressort de ces réactions qu'a recensé le médiateur des antennes de Radio France? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon, Bruno Duvic?
Moi, ce qui m'a frappé, il y a une vraie inquiétude autour de ce compteur et on est obligé d'en tenir compte. Je pense que quand on fait une émission comme ça, quand on aborde un sujet comme ça, il faut juste être conscient qu'au fond, il y a deux groupes de pression. Oui, ERDF est un peut faire pression à sa manière, mais les groupes de pression existent aussi du côté des citoyens qui ont peur. Il n'y a pas d'un côté les gentils Robin des Bois et les méchants. Alors, certes, un groupe comme ERDF a beaucoup plus de moyens, mais nous, journalistes, quand on aborde une émission comme ça, on a des pressions qui viennent des deux côtés et on doit essayer de garder la tête froide vis-à-vis des deux camps.
Mais je voudrais quand même préciser, parce que ça, il faut quand même le préciser, qu'en effet, les journalistes, vous êtes journalistes, nous sommes journalistes, on n'a aucun intérêt pour ce compteur, c'est un simple sujet d'actualité, et franchement, jamais personne ne nous a dit...
Et on est sur le service public, il n'y a pas de pub pour Linky à un moment ou à un autre dont on risquerait de perdre le marché.
Mais j'éviterai le terme de pression, je pense qu'on ne subit ni de pression ni d'un côté ni de l'autre. On a une actualité forte qui concerne tout le monde, qui est l'arrivée des compteurs Linky, sur lequel on se doit de donner des explications et de faire un peu de pédagogie, et puis on a par ailleurs, en effet, des groupes de pression, même pas, ce sont des groupes militants, des activistes qui s'expriment sur Internet, dont on doit aussi tenir compte.
Alors, merci à vous tous pour continuer à écrire au médiateur. Médiateur.radiofrance.fr, c'est un tout nouveau site, Bruno.
Exactement, qui est entièrement depuis mercredi.
Voilà, plus lisible, plus facile, plus fluide. Je salue le boulot, l'énergie, la bonne humeur de toute mon équipe. Jérôme Boulet, Caroline Rousseau, Redouane Tella, Jean-Baptiste Audibert et à la technique ce matin, Florent Layani. Hop, un jour en France.
Sonia, c'est Cartier où une vision fondamentaliste et une pratique fondamentaliste de l'islam est de plus en plus visible. C'est notre sujet du jour dans Un jour en France avec comme invité Gilles Kepel.
Je pense que ça va faire réagir et c'est pas impossible que vous reveniez répondre aux questions du médiateur.